Décryptage. Clotilde Dumais.
C'est désormais l'un des plus gros succès sur Netflix, Adolescence, la mini-série britannique qui filme l'arrestation d'un enfant de 13 ans accusé d'avoir tué l'une de ses camarades. Comment un jeune garçon mal dans sa peau en arrive-t-il à détester le genre féminin? C'est l'une des questions soulevées en creux par cette fiction qui aborde donc entre autres le délicat sujet du masculinisme, un mouvement de plus en plus médiatisé, très présent sur les réseaux sociaux. Alors de quoi parle-t-on précisément? Jusqu'à quel point est-ce un réel danger? Faut-il craindre une guerre des sexes? On en parle ce soir dans Décryptage. Et nous sommes en ligne avec Laura Verker. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheuse en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université. Merci d'être avec nous. Et puis Stéphanie Lamy, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheuse spécialiste des guerres de l'information, vous avez notamment écrit ce livre, La terreur masculiniste, c'est aux éditions du Détour. Alors peut-être pour commencer justement avec vous, Stéphanie Lamy, tout simplement, ou pas forcément d'ailleurs tout simplement, mais comment est-ce que, pour que voilà, les auditeurs comprennent bien, comment est-ce qu'on peut définir le masculinisme selon vous ?
Alors déjà, c'est les masculinismes, donc merci pour la question, et il existe plusieurs définitions. Toutes renvoient à une action collective et toutes parlent de l'effacement de la perspective des femmes. Alors, la définition que moi je donne est un peu plus complexe, où j'ajoute aussi la dimension apologie de la violence, parce qu'on constate que dans les différents milieux radicaux masculinistes, les discours tendent à justifier la violence à l'égard des femmes et les minorités de genre.
Justement, et Laura Verker, c'est un mouvement, on peut le dire, qui s'est un peu construit en opposition au féminisme.
Oui, effectivement, totalement, ne serait-ce que le mot « isme », hein, qui témoigne de cette construction, on va dire, en symétrie entre le féminisme et le masculinisme. L'histoire des, donc ça c'est Christine Barr, hein, l'historienne des antiféminismes, montre bien le parallèle, la façon dont les masculinismes se sont construits en réaction à l'avancée des féminismes. Et d'ailleurs, le masculinisme, c'est une réaction antiféministe, voilà, qui se dit en tout cas victime des avancées féministes sur les terrains politiques, économiques, domestiques, etc.
Ça veut dire, Stéphanie Lamy, que finalement c'est pas un mouvement récent. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de quand est-ce que c'est apparu le masculinisme à peu près, ou les masculinismes?
Alors, les masculinismes, déjà il faut dire que ça trouve son terreau dans le sexisme et le misogynie qui existent dans la société depuis toujours. Ensuite, les diverses formes de masculinisme ont des racines différentes. Vous avez par exemple les mouvances pour la famille naturelle, qu'on peut considérer des mouvances antiféministes, voire masculinistes, qui se sont créées à partir des grands colloques féministes, en réaction aux grands colloques féministes des années 70. Au niveau supranational, mais vous avez aussi des associations, par exemple des pères séparés, qui existent déjà depuis les années 60-70, et toujours en militant contre l'avancée des droits des femmes et des minorités de genre, et parfois aussi contre les avancées des droits des enfants. Donc vous avez d'autres types de masculinisme qui se sont construites dans les années 60 à la gauche radicale, où des hommes ont commencé à parler entre eux. La moitié ont décidé qu'en fait, non, il faut se déconstruire, il faut revoir ce que c'est d'être un homme. Et d'autres ont décidé que non, finalement, les féministes vont un peu trop loin. Et vous avez ce courant-là, vous avez un courant qui découle de ces groupes de parole entre hommes. Et ensuite, vous avez sur le net les forums, les gamers, mais avant ça, les forums d'Internet, qui ont produit d'autres formes de masculinisme, notamment les pick-up artists, les coachs en séduction entre grands guillemets, qui sont des brigades de harcèlement, et en réaction à la création des coachs en séduction, les incels. Les incels qui rejettent en fait toute forme d'amélioration de soi et qui estiment que de toute manière tout est fichu et que la société leur doit des corps de femmes entre guillemets génétiquement supérieurs puisqu'ils se trouvent eux-mêmes moches.
En vous écoutant, Stéphanie Lamy, on comprend que c'est difficile d'établir un profil type, on va dire, de l'homme qui pourrait adhérer à ces mouvements.
La manière dont ces discours sont construits permet à chaque homme, dans une société qui tend vers l'égalité, de trouver un prêt-à-penser, une idéologie prêt-à-penser pour justifier un grief qu'il aurait dans sa vie.
Alors, oui, Stéphanie Lamy, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Pardon, ça a coupé, on vous entend.
Allez-y.
Bon, je voulais dire qu'on entendait beaucoup parler de masculinisme, hein, notamment depuis la campagne présidentielle américaine et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je voudrais qu'on écoute notamment cet exemple avec Nick Fuentes, un influenceur militant d'extrême droite, qui anime régulièrement une émission sur les réseaux, comme d'autres d'ailleurs influenceurs du même genre le font, et qui est élu en direct au moment des résultats de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Kamala Harris. Cette prise de parole a quand même beaucoup fait parler, on l'écoute.
Hey bitch, we control your bodies.
Hey les filles, on contrôle vos corps. Vous savez quoi? Les mecs ont encore gagné, ok? Les hommes ont encore gagné. Et oui, on contrôle vos corps. C'est ton corps. Mon choix. Et les hommes ont encore gagné. Il n'y aura jamais, jamais une femme présidente. C'est terminé.
It's over.
Laura Verker, quand on entend ce genre de discours, est-ce que ça veut dire que Donald Trump et ses soutiens finalement sont un peu comme des porte-drapeaux, on va dire, de ce mouvement masculiniste ?
Bah, en tout cas, effectivement, ce sont des représentations, on va dire, institutionnelles, hein, au plus haut de l'État, qui légitiment des manières d'investir des modes d'être viril, masculiniste dans la façon d'incarner le pouvoir en politique. Hein. Donc ça, c'est sûr que c'est le sommet, on va dire, immergé de l'iceberg qui fait que du coup aussi, on parle beaucoup plus aussi de cette question-là, la question des masculinistes. Hein. On a l'impression que c'est un sujet qui apparaît d'un seul coup dans le débat public et qui devient un problème. Mais c'est du fait aussi justement de ces figures politiques à l'extrême droite qui prennent la lumière aussi, hein, qui par une façon virile en fait d'habiter le débat public, prennent la lumière dans l'espace public, attirent l'attention des médias, etc. Donc il y a Donald Trump, mais on a Bolsonaro, Javier Milei, etc. Enfin, un petit peu partout dans le monde. Donc effectivement, c'est les représentants, on va dire, politiques de ces idées masculinistes au plus haut de l'État, disons.
Vous parlez de l'extrême droite, Stéphanie Lamy, est-ce que effectivement ces mouvements prennent de l'ampleur en même temps que les extrêmes deviennent de plus en plus puissants ? Est-ce que ça a un lien selon vous ?
Oui, c'est une des manières de nourrir les avancées des autoritarismes dans le monde entier. La manière de le nourrir, c'est de jouer de l'identité de genre masculin et de prôner un suprémacisme masculin. Ce sont des discours qui peuvent plaire quelque part à une base votante d'hommes qui ne trouvent plus leur compte dans une société qui tend vers l'égalité. Et ce n'est pas que les jeunes hommes, hein, c'est vraiment une idée reçue que ça concerne que les jeunes hommes. Donc c'est quelque chose qui participe à l'avancée des extrêmes droites, ça c'est sûr. Ce n'est pas la seule raison, évidemment, mais c'est une des raisons.
Alors une autre raison, c'est peut-être aussi le rôle important des réseaux sociaux, qui sont maintenant, en plus on le sait, hein, moins régulés, si on pense notamment à la plateforme X, détenue par Elon Musk. C'est d'ailleurs la seule plateforme sur laquelle est présent Andrew Tate, c'est un influenceur américano-britannique qui publie des vidéos quotidiennes, hein, dans lesquelles on le voit souvent mis en scène dans des voitures de luxe, en train de fumer des cigares, et tenir des propos qui résonnent clairement avec ce courant masculiniste. On écoute un extrait de ce qu'il peut publier sur ses réseaux.
C'est le patriarcat qui a construit le monde moderne. C'est le patriarcat qui a sauvé les femmes. C'est le patriarcat qui rétablit l'ordre. C'est le patriarcat qui rétablit la justice. C'est le patriarcat qui rétablit le calme. C'est toujours le patriarcat qui amène le progrès. Merci Dieu, le patriarcat est de retour.
Si tu travailles déjà dur, que tu vas déjà à la gym, que tu t'entraînes et que tu fais tout pour avoir le plus de muscles possible, le plus d'argent possible, que tu es dévoué, que tu ne dors pas, tu ne perds pas ton temps, tu ne fumes pas, tu ne joues pas aux jeux vidéo, que tu es focalisé sur l'objectif d'être une personne fantastique, tu peux juste ignorer cette fille. Cette fille qui t'a brisé le cœur ou qui t'a trompé, ignore-la. Et elle va devoir te regarder pour le restant de sa vie, être l'homme avec qui elle aurait pu être, mais pour qui elle n'est finalement pas assez bien.
Voilà, des extraits des propos d'Andrew Tate, donc diffusés sur les réseaux sociaux. C'est un influenceur, Stéphanie Lamy, qui justement a beaucoup de poids auprès d'un certain public masculin, Andrew Tate.
Andrew Tate, c'est un modèle pour beaucoup de prédicateurs masculinistes, et j'utilise ce mot prédicateur à bon escient, parce qu'il propose un modèle économique pour l'exploitation sexuelle et économique des femmes. Donc, derrière la rhétorique, il y a une machine à générer des revenus qui exploite aussi bien les jeunes hommes et les femmes, mais avec des conséquences beaucoup plus graves pour les femmes, évidemment. Et surtout, c'est quelqu'un qui représente une mouvance qui s'appelle les MGTOW, M-G-T-O-W, Men Going Their Own Way, comme on a pu entendre dans l'extrait. Il rejette en fait tout ce qui concerne le mariage et la conjugalité, et les relations sincères entre hommes et femmes, pour préférer un modèle d'exploitation des femmes, aussi bien sexuelle et économique. Donc, évidemment, il a su jouer des réseaux, des algorithmes pour avancer ses discours politiques, mais également son modèle économique qui est maintenant dupliqué par plein d'hommes dans le monde entier d'ailleurs.
C'est un modèle économique avec cette plateforme privée, là, The Real World, c'est ça qu'il a lancé notamment ?
Il n'y a pas que ça. Il y a également un modèle économique de proxénétisme.
Il est inculpé d'ailleurs pour viol et trafic d'êtres humains au Royaume-Uni.
Absolument. Et c'est un modèle économique de proxénétisme sur comment manipuler les femmes pour qu'elles performent devant les caméras.
Et comment, du coup, on peut expliquer alors qu'il soit si influent et que autant d'hommes l'écoutent ? C'est quoi qui fonctionne ?
Parce que beaucoup d'hommes estiment qu'il y a peut-être quelque chose de vrai de ce qu'il dit. Quand on fait il y a plusieurs chercheurs qui ont essayé de comprendre pourquoi ça fonctionne aussi bien. Il y a certains discours qui sont minorés, c'est-à-dire les choses les plus violentes. L'audience d'Andrew Tate va dire « Oh là là, non, ça c'est juste pour faire des clics ». Il dit ça juste pour faire des clics, mais il dit quand même des choses vraies. Il faut s'améliorer, il faut travailler son corps, il faut devenir riche. Ce sont des choses qu'un homme devrait faire. Donc ce sont des idées assez déjà hétéronormatives, mais également qui pèsent. En fait, ce sont des stéréotypes qui pèsent sur les hommes de devoir être le pourvoyeur du foyer.
Alors les réseaux sociaux, il en est d'ailleurs question dans la série Adolescence dont je parlais au début de ce décryptage qui est diffusée sur Netflix, série donc qui évoque un petit peu ce sujet du masculinisme avec donc ce jeune garçon de 13 ans accusé d'avoir tué l'une de ses camarades. Je voudrais qu'on en écoute un extrait dans lequel ce jeune homme est interrogé lorsqu'il est en détention par une psychologue qui lui parle justement des plateformes sur Internet.
Ils veulent dire quoi ces émojis, Jamie ? Ces petits haricots, par exemple. C'est bien des haricots, c'est ça ?
Ça veut dire qu'elle pensait que je faisais partie d'un de ces groupes Internet.
Non, quel genre de groupe ?
Ceux qui disent que les meufs veulent pas de nous et nous calculent pas.
Et c'est vrai ? T'en fais partie ?
Non.
Mais tu sais ce qu'ils disent ?
Ouais, parce que tout le monde arrêtait pas d'en parler au collège. Des trucs d'incel et tout ça. Alors je suis allée voir, mais c'était pas mon truc.
Et ce qu'elle voulait dire en mettant tous ces émojis, c'est que t'étais un incel ?
Ouais.
Et ils veulent dire quoi, les autres ?
Il veut l'amour, mais il l'aura pas. Une pilule rouge qui explose, ça veut dire red pill. Et ça, c'est 80-20.
Ça veut dire quoi, 80-20 ?
Ça veut dire que 80% des meufs sont attirées par 20% des mecs. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord avec eux.
Elle a fait ça à quelqu'un d'autre ?
Non.
Pourquoi elle s'en est prise à toi ?
Ben, parce que je suis super moche.
Voilà, un extrait de cette série Adolescence qui a beaucoup fait réagir, hein, Stéphanie Lamy. Elle va même être diffusée, cette série, dans les collèges et les lycées au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un pays, justement, qui prend cette menace particulièrement au sérieux.
Oui, elle prend cette menace particulièrement à sérieux, mais en amont déjà, le ministère de l'Intérieur comprend qu'il y a un lien entre violence fondée sur le genre et radicalisation. Donc déjà dans les systèmes de détection de la radicalisation, il y a déjà ce drapeau rouge qui peut émerger de lien entre violence faite aux femmes et radicalisation. Ensuite, il y a quand même eu des attentats INCEL au Royaume-Uni. Ils sont au courant que ça peut être une violence meurtrière. Et par ailleurs, il y a une femme qui est ministre de l'Intérieur qui, elle, parle de lutte contre l'extrême misogynie. Bon, pour moi, la misogynie, elle est extrême de toute manière. C'est un pléonasme. Mais pour juste dire que c'est quelqu'un qui a pris les choses au sérieux, ce qui veut aussi dire que les femmes qui se retrouvent dans ces institutions-là peuvent être peut-être plus à même de comprendre la teneur de la menace.
Laura Werker, est-ce que c'est la même chose en France ou est-ce qu'on n'a pas encore pris conscience suffisamment du danger voilà, où est-ce qu'on en est un petit peu ici en France?
En tout cas, déjà l'écho en fait qu'a eu cette série, elle a eu un écho aussi assez fort en France. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de la façon dont on s'est saisi de cette série en Grande-Bretagne. Il y a plusieurs séries qui circulent. Il y a eu d'ailleurs, il y en a une qui avait eu un documentaire qui avait eu un César. Enfin, il me semble qu'on en parle aussi de plus en plus. Après, moi, je serais peut-être juste vigilante sur l'effet d'attention d'un coup, en fait, soudain qu'on a cette problématique et qui vient se cristalliser en fait sur d'autres enjeux auxquels on accorde beaucoup d'importance et qui fait peur, c'est-à-dire la question des jeunes et la question des réseaux sociaux et la question de la violence. Et donc, du coup, qui, à mon sens, vise, on va dire, peut-être à réduire le problème, en fait, à concentrer le problème, justement, du masculinisme, en fait, sur ces jeunes garçons en lien avec les réseaux sociaux, qui, bien évidemment, vient intensifier le sujet. Mais on l'a évoqué au début de l'émission, hein. Enfin, c'est aussi représenté au plus haut sommet de l'État au sein de masculinité plus âgée. Et puis aussi, ça peut se diffuser de façon plus sourde et adoucie, c'est-à-dire que là, on va montrer les incels, etc. Donc, c'est les formes les plus extrêmes. Mais en fait, cette idée, ces valeurs viriles, en fait, elles se diffusent aussi dans plein d'espaces. On parlait des pères, par exemple, au début de l'émission. Les mouvements de pères pour la garde alternée, donc ces mouvements masculinistes, en fait, c'est souvent des mouvements aussi plus ambigus parce qu'ils prônent en même temps la possibilité des hommes de prendre soin des enfants. Ils revendiquent aussi le fait d'avoir un statut important dans la famille, de soins, etc. Donc, c'est pas toujours aussi dichotomique, aussi clair, aussi évident. Cette misogynie, elle peut s'exprimer sous des formes aussi plus adoucies. Il me semble qu'il y a un continuum autour de ça, donc le phénomène, il est aussi plus large.
Et justement, parce que c'est flou, comme vous l'expliquez, Laura Werker, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce qu'on a la sensation finalement que réguler les réseaux sociaux, c'est bon, peut-être une piste, mais ça ne suffit pas.
Si, il y a la régulation. Après, il y a la question effectivement des algorithmes. On parlait de X en fait, qui font que ça polarise le débat. En fait, ça valorise, ça rend plus visible les idées qui vont être extrêmes, qui vont polariser, qui vont être clivantes. Donc, en fait, ces idées vont circuler et peut-être vont aussi parfois avoir plus de visibilité, en fait, produire des effets d'optique par rapport finalement à la massification réelle de ces idées-là. Elles vont prendre plus de visibilité que les autres. Donc, il y a cette question des algorithmes. Donc, ça, en fait, c'est aussi de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, auprès des jeunes, hein, il y en a de plus en plus, hein, justement, sur cette question du fonctionnement des algorithmes. Il y a l'éducation aux violences sexistes et sexuelles auprès des jeunes. Et puis après, je pense qu'il faut prendre aussi une responsabilité plus globale en fait de ces questions-là, donc à la fois déployer des dispositifs d'éducation média, de sensibilisation auprès des jeunes, mais aussi prendre en charge le sujet collectivement. D'ailleurs, on parlait de la série Adolescence. On s'est beaucoup focalisé sur les enfants, mais dans la série, il y a aussi le sujet en fait de la violence qui s'hérite du grand-père au père à l'enfant, dont on parle beaucoup moins, mais finalement en fait elle vient d'ici aussi, cette violence. Elle n'est pas née uniquement sur les réseaux sociaux, elle est venue aussi peut-être la catalyser.
Merci beaucoup en tout cas Laura Werker pour effectivement les pistes que vous venez d'évoquer. Chercheuse en sciences de l'information et de la communication, je rappelle, à Sorbonne Université. Et puis merci à vous Stéphanie Lamy, chercheuse spécialiste des guerres de l'information.